un épisode à écouter en son immersif. Existe-t-il sur Terre un environnement sauvage et inhabité que vous pensez connaître suffisamment pour pouvoir y survivre seul, sans provisions ni bagages?
Il n'est pas facile de comprendre que je puisse encore aimer la forêt tropicale après avoir lutté pour ma vie pendant 11 jours dans l'enfer vert de la jungle. Mais la vérité est que, pour moi, il n'y a jamais eu d'enfer vert. C'est cette forêt qui m'a sauvé la vie.
Ces mots sont ceux d'une miraculée, Julian Kwebke. Au début des années 1970, cette adolescente allemande qui vit au Pérou embarque dans un petit avion de ligne accompagnée de sa mère. Une demi-heure après le décollage, l'avion disparaît des radars alors qu'il survole la forêt amazonienne. Quand Julian revient à elle, elle est seule. Autour d'elle, des arbres et des broussailles. Aucun vestige de l'avion, hormis le siège sur lequel elle était assise. Ses blessures sont étonnamment légères, mais elle n'a aucune provision et n'est vêtue que d'une petite robe d'été. L'adolescente se met en tête de regagner la civilisation par ses propres moyens. Son seul atout pour sortir de cette forêt immense, peuplée de mygales, de serpents venimeux ou encore de caïmans, les connaissances que ses parents biologistes lui ont transmises. C'est cette histoire vraie de survie que je vais vous raconter. Je suis Daniel Fievet et je vous emmène sur les traces de cette jeune fille de 17 ans qui a fait preuve d'une ténacité hors du commun pour regagner la civilisation in extremis. Décembre 1971. Maria Kwebke et Julian, sa fille, se feraient un passage dans l'aéroport bondé de Lima, la capitale du Pérou. Dans le hall des départs, l'ambiance est électrique. Plusieurs vols ont été annulés la veille. Des centaines de personnes se pressent au guichet pour s'arracher les derniers billets. Chacun veut rentrer chez lui à temps pour fêter Noël en famille. Maria se réjouit d'avoir trouvé des billets pour Pucallpa pour rejoindre son époux, le père de Julian. Pour la famille, ces retrouvailles auront une saveur toute particulière. Julian vient de terminer sa dernière année de lycée dans la capitale où elle séjournait pendant que ses parents biologistes étudiaient la forêt tropicale à des centaines de kilomètres. Maria Kwebke aurait préféré rentrer quelques jours plus tôt, mais Julian ne voulait absolument pas rater la remise des diplômes et surtout le bal de fin d'études.
La première vraie grande fête de ma vie. Pendant des semaines, j'avais économisé l'argent gagné à donner des cours d'allemand le soir pour payer ma première robe longue. J'avais même trouvé un cavalier, un cousin d'une amie de ma classe. Ce moment était pour moi d'une importance considérable parce que je devais faire mes adieux à une bonne partie de mes amis.
Julian a supplié sa mère de repousser le départ pour aller à cette fête. Celle-ci n'a pas eu le cœur de refuser.
Bon, dans ce cas, nous prendrons l'avion 24.
Mais elle a eu du mal à trouver ses places. Elle a dû se rabattre sur le seul vol pour Pucallpa encore disponible. Celui de la Lansa, une compagnie à la très mauvaise réputation. Deux de ses appareils se sont récemment écrasés. Mais Maria Kwebke n'a pas voulu attendre.
Tous les avions ne vont quand même pas tomber.
À la mi-journée, l'avion décolle avec 7 heures de retard. Julian est assise à l'avant-dernier rang, côté hublot, sa place favorite. La rangée compte 3 places. Sa mère est au centre, à côté d'elle, un homme corpulent somnole déjà. La mère de Julian a le visage crispé.
Un oiseau de métal qui monte dans le ciel, c'est tout à fait contre nature.
Maria Kwebke n'aime pas prendre l'avion. Elle préfère observer les oiseaux voler dans le ciel depuis la terre ferme. Elle est ornithologue. Son époux, Hans Willem Kwebke, également biologiste, travaille sur la faune et la flore des forêts tropicales. Le couple d'Allemands s'est installé au Pérou pour étudier l'extraordinaire biodiversité de sa forêt primaire. Ils ont transmis leur passion à leur fille unique, Juliane, qui observe depuis le hublot le moutonnement vert de la canopée qui s'étend à perte de vue. Le vol ne doit durer qu'une petite heure. L'ambiance est bonne à bord. Les passagers se réjouissent de passer les fêtes en famille. 30 minutes après le décollage, les hôtesses débarrassent précipitamment les plateaux repas. L'avion fait soudainement face à un mur de nuages noirs et opaques.
Au lieu de chercher à éviter la tempête, le pilote fonce droit dans le chaudron de sorcière. En plein jour, c'est soudain la nuit autour de nous. Les éclairs ne cessent de jaillir dans tous les sens. En même temps, une force invisible se met à secouer l'avion comme un jouet.
La mère de Juliane est de plus en plus nerveuse. L'avion plonge brusquement dans des trous d'air avant de remonter à pleine puissance.
Les gens poussent des cris en recevant sur la tête les objets qui tombent des casiers ouverts. Une grêle de sacs, de colis, de bouquets de fleurs, de jouets, de cadeaux empaquetés, de vestes et autres vêtements s'abat sur nous.
La panique s'installe.
C'est alors qu'une lueur blanche aveuglante jaillit sur l'aile droite. Je ne sais pas si c'est un éclair qui vient de la frapper ou s'il s'agit d'une explosion. Cette lumière crue m'aveugle. Au même moment, j'entends ma mère dire d'une voix calme.
Cette fois, c'est la fin.
L'avion pique brusquement du nez.
Bien que je sois assise tout au fond, près du hublot, je vois toute la longueur de l'allée centrale jusqu'au cockpit. Elle est au-dessous de moi. Les lois de la physique sont abolies. C'est comme un tremblement de terre. Non, c'est pire. Car maintenant, nous fonçons vers le sol. Nous tombons à toute allure. Les appels au secours me percent les oreilles avec le grondement des réacteurs emballés.
Juliane perd connaissance. Après avoir été touchée par la foudre, l'avion se disloque en plusieurs morceaux, en plein ciel. Quand Juliane revient à elle, les cris se sont tus, tout comme le vrombissement des réacteurs. Elle est toujours attachée à son siège, mais il n'y a plus qu'elle sur la rangée. Et elle n'est plus dans l'avion.
Je suis seule, à 3000 mètres d'altitude. Et je tombe. Ma chute libre est relativement silencieuse. J'entends le bruissement de l'air, il m'emplit les oreilles. La ceinture me scie l'abdomen. Cela me fait mal et me coupe le souffle. Avant de pouvoir ressentir la peur, je perds à nouveau conscience.
La banquette à trois places descend en tourbillonnant, un peu comme le font les graines en forme d'hélice des érables. Juliane, la tête en bas, plonge littéralement en direction de la forêt. La jeune fille rouvre un instant les yeux. Elle voit se rapprocher la cime des arbres dans un lent mouvement circulaire. Puis c'est le trou noir. Quand Juliane revient à elle, elle est recroquevillée en chien de fusil dans la boue.
Ma ceinture est détachée. J'ai donc dû déjà me réveiller au moins une fois. Apparemment, j'ai aussi rampé pour me mettre un peu plus à l'abri sous le dossier de la banquette à trois places. Je suis demeurée là, couchée en position fœtale, tout le reste de la journée et de la nuit. Jusqu'à ce matin où je me réveille complètement trempée, la peau molle, couverte de boue et de terre, car il a dû pleuvoir à torrent pendant un jour et au moins une nuit.
Tout lui revient instantanément en mémoire. La tempête, l'éclair, la chute.
Je n'éprouve aucune peur, mais un sentiment infini de désolation. Car je prends conscience avec acuité de ma solitude.
Il n'y a personne autour d'elle. Qu'est-il advenu de sa mère et de l'homme qui voyageait à côté d'elle? C'est un mystère. Juliane essaie de se lever, mais n'y parvient pas. Elle éprouve la sensation d'être dans un brouillard, sûrement les effets de choc reçus à la tête. Sa montre fonctionne encore, elle entend son tic-tac, mais elle ne parvient pas à lire les chiffres. Tout est flou. L'adolescente s'aperçoit que son œil gauche est complètement fermé par ses paupières gonflées. L'autre est à peine plus ouvert. Pour ne rien arranger, elle a perdu ses lunettes. Elle est myope depuis qu'elle a 14 ans.
Je finis malgré tout par réussir à lire l'heure. 9 heures. Et d'après la hauteur du soleil, ce doit être le matin. Ma tête recommence à tourner. Je me recouche, épuisée, sur le sol de la forêt.
Quelques heures plus tard, après bien des efforts, Yuliane parvient à se redresser. Elle s'observe et se tâte pour évaluer l'ampleur de ses blessures. Sa clavicule droite semble cassée, mais l'os n'est pas déplacé. Cela ne lui fait pas vraiment mal, juste une sensation étrange. Elle découvre une entaille de 4 cm sur son mollet gauche et une autre plus petite, à l'arrière de son bras droit. Étonnamment, bien qu'assez profonde, ses plaies ne saignent pas. Ses blessures sont bien légères au regard de la gravité de l'accident qu'elle vient de vivre. Il est probable que sa banquette ait atterri dans un enchevêtrement de lianes qui a amorti sa chute. Mais est-elle la seule miraculée ?
À quatre pattes, je me mets à chercher partout autour de moi. Je cherche ma mère. Maman ! Maman ! Maman ! Seules les voix de la forêt me répondent.
Les bruissements que la jeune fille perçoit dans la pénombre du sous-bois ne l'effraient pas. Ces voix de la forêt lui sont familières.
La vie est partout. Et pourtant, un œil non exercé n'aperçoit que rarement une bête plus grosse qu'un insecte. Pour beaucoup de ces bruits, il n'existe même pas de nom. Les grenouilles et les oiseaux émettent des sons invraisemblables qu'on est rarement capable d'attribuer à ces animaux lorsqu'on ne les connaît pas et qui, pour beaucoup de gens, évoquent quelque chose de sinistre et de menaçant.
Yuliane a souvent accompagné ses parents lors de leurs expéditions en forêt. Elle a même vécu avec eux pendant un an et demi à Panguana, une station de recherche qu'ils ont fondée au cœur d'une forêt primaire semblable à celle-ci.
Mes parents zoologues m'avaient presque tout montré de ce qu'il y avait à voir. Je devais seulement aller rechercher ce savoir dans les brumes de mon cerveau commotionné. Car désormais, il ne s'agissait plus de choses que j'avais apprises pour ainsi dire en passant. C'était une question de vie ou de mort.
Minuscule au pied des arbres immenses de la forêt amazonienne, Yuliane lève les yeux vers le toit végétal que forme la canopée au-dessus de sa tête. En tombant, son avion aurait dû faire une trouée dans le feuillage. Mais elle n'en aperçoit aucune. Le seul vestige de l'avion autour d'elle est la banquette à laquelle elle est restée accrochée lors de sa chute. L'adolescente de 17 ans ne dispose d'aucun vivre, d'aucun bagage. Elle n'a que ce qu'elle porte sur elle. Une petite robe multicolore sans manches et une sandale blanche à un pied. Elle a perdu l'autre. Avec ses parents, elle a toujours arpenté la forêt munie de bottes en caoutchouc pour éviter les morsures de serpents. Elle va devoir se contenter d'une seule sandale ouverte au talon.
Je me déplace en tout petit cercle autour de ma banquette, car je sais trop bien avec quelle rapidité on peut perdre le sens de l'orientation dans la forêt. Tout se ressemble. Je ne serai pas la première à m'égarer définitivement au bout de quelques pas. Chez nous, à Panguana, je ne partais jamais dans la forêt sans machette. Et dès que je quittais les sentiers d'observation que nous avions tracés, je faisais des entailles sur les troncs des arbres à intervalles réguliers, comme mes parents me l'avaient appris.
N'ayant pas de machette sous la main, pour éviter de se perdre, Yuliane fait d'un arbre particulièrement reconnaissable un point de repère qu'elle s'efforce de ne jamais perdre de vue. Les seules traces de l'avion qu'elle finit par découvrir sont un sachet de bonbons et un énorme gâteau.
Comme j'ai très faim, j'en mange un morceau. Il a un goût épouvantable. La pluie qui est tombée pendant des heures l'a complètement détrempé. De plus, il est couvert de boue. Je le laisse donc là où je l'ai trouvé. Mais j'emporte les bonbons.
Yuliane ne se doute pas à quel point ce gâteau rebutant lui manquera dans quelque temps.
Ohé ! Ohé ! Y a quelqu'un ? Ohé !
Personne, hormis d'innombrables grenouilles, c'est la saison des pluies. Assoiffée, la jeune fille lèche les grosses gouttes d'eau qui perlent sur les feuilles autour d'elle. Soudain, elle s'arrête net. Derrière le concert des grenouilles, il lui semble entendre le grondement d'un moteur. C'est bien cela. Des avions sillonnent le ciel au-dessus d'elle. L'adolescente comprend immédiatement. Ils sont à la recherche d'éventuels rescapés. Elle ne se trompe pas. Depuis que son avion a disparu des écrans radars il y a un peu plus de 24 heures, la plus importante opération de recherche de l'histoire de l'aviation péruvienne a été lancée. Mais impossible pour les sauveteurs d'apercevoir la jeune fille dissimulée par l'épais feuillage de la forêt.
Un sentiment d'impuissance m'envahit. Et une pensée, tu dois absolument sortir du couvert des arbres. Puis les avions s'éloignent. Et je reste toute seule, avec les voix de la forêt.
Julianne tend l'oreille. Derrière les voix de la forêt, un son léger et régulier lui avait échappé. L'adolescente se concentre pour en localiser la provenance. Elle avance dans sa direction, tel un animal à l'affût, et finit par découvrir une source qui donne naissance à un très fin ruisseau.
Cette trouvaille me remplit d'espoir. Pas seulement parce que j'ai trouvé de l'eau à boire, mais je suis convaincue que ce petit ruisseau me montre le chemin du salut.
Si tu te perds dans la forêt et que tu trouves un cours d'eau, reste près de lui et suis-le. Il te mènera vers les hommes.
Combien de fois son père lui a-t-il répété cette phrase ? Dans la forêt tropicale, comme partout, les petits ruisseaux font les grandes rivières et les humains aiment vivre le long des rivières. Julianne décide donc de faire de ce ruisseau le fil d'Ariane qui lui permettra de regagner la civilisation.
Il n'y a aucun survivant de l'accident dans les parages. Cela n'aurait pas de sens d'attendre davantage. Ici, les avions ne pourront jamais me retrouver.
Suivre le ruisseau ne s'avère pas si facile. La jeune fille doit escalader des troncs d'arbres couchés et se frayer un passage dans l'épaisse végétation.
Quelle distance ai-je parcourue en ce premier après-midi ? Je n'en ai aucune idée. Vers 6 heures, il se met à faire sombre et je cherche au bord du ruisseau un endroit approprié, le dos protégé, pour y passer la nuit.
Lovée entre les contreforts des racines d'un arbre, Julianne mange un bonbon aux fruits et sombre dans le sommeil, épuisée. Au réveil, la jeune fille n'a rien perdu de sa détermination. Elle reprend sa marche le long du ruisseau. Ses blessures ne la font pas souffrir, mais elle éprouve toujours cette sensation étrange d'être enveloppée dans du coton. Bien que les nombreux méandres du cours d'eau lui fassent faire d'interminables détours, elle ne cède pas à la tentation de couper à travers la forêt.
Comme je ne vois pas très loin sans lunettes, je n'ose prendre aucun raccourci. Le risque de me perdre est beaucoup trop grand. Et puis, le terrain est très accidenté. Il ne cesse de monter et de descendre. Le cours du ruisseau est le seul endroit où l'eau a pu trouver une pente douce. En le suivant, j'avance lentement, mais sûrement.
L'absence de lunettes n'empêche pas Julianne d'ouvrir l'œil. Et quand elle croise la route d'une imposante mygale dont elle sait à quel point la morsure peut être redoutable, elle l'évite soigneusement.
Nous nous observons avec circonspection et chacune poursuit son chemin.
Chaque fois qu'elle entend passer un avion de recherche, la jeune Allemande hurle dans sa direction en faisant de grands gestes, tout en sachant pertinemment que cela ne sert à rien. Il faut qu'elle atteigne une rivière plus large afin que les cimes des arbres soient suffisamment écartées pour qu'il y ait une chance que les sauveteurs l'aperçoivent.
Peut-être ont-ils déjà retrouvé les autres. Peut-être ma mère est-elle parmi les rescapés. Mes blessures sont si légères qu'il me paraît impossible que d'autres n'aient pas survécu au crash.
Après 3 jours de marche, la montre de Juliane cesse définitivement de fonctionner. Elle n'a pas résisté longtemps à l'humidité extrême de la forêt. Désormais, Juliane devra se fier à la position du soleil et au chant des animaux qui se succèdent au fil de la journée. Dans la forêt, ce que l'on entend est aussi important que ce que l'on voit. L'adolescente est saisie d'effroi en entendant ce battement d'ailes, reconnaissable entre mille.
Il est impossible de se méprendre sur sa nature, parce qu'il est plus puissant et plus lent que celui de n'importe quel oiseau.
C'est sa mère, ornithologue, qui lui a appris à le reconnaître.
Ce grand battement d'ailes est celui du grand condor de la selva, le vautour royal. Ces oiseaux mangent les morts. Ils n'entrent en action dans la forêt que lorsqu'ils sont sûrs d'y trouver des charognes de bonne taille.
Un horrible pressentiment traverse Juliane.
Pour la première fois depuis que je marche seule dans la forêt, je suis saisie de terreur. J'avance jusqu'au détour du prochain méandre, et là, je vois une rangée de 3 sièges, toutes pareilles à ma banquette. Sauf que celle-ci s'est plantée dans la terre à près d'un mètre de profondeur. Avec les têtes des passagers. 2 hommes et 1 femme. Seules leurs jambes dépassent du sol de la forêt vierge et se dressent grotesquement vers le ciel.
Les corps sont encore intacts. Plusieurs vautours attendent, perchés sur des branches, en surplomb.
Une pensée terrible me traverse l'esprit. Et si c'était ma mère ? Très lentement, je m'approche des corps. Je regarde les pieds de la femme, comme si cela pouvait me permettre de la reconnaître. Je ramasse un petit bâton pour tourner le pied avec précaution afin de voir les ongles. Ils sont vernis. Je respire. Ma mère ne se vernit jamais les ongles.
Juliane se rend compte tout de suite après que sa crainte était irrationnelle. Cette femme ne pouvait être sa mère puisqu'elle était assise à côté d'elle dans l'avion. La frayeur qui vient de s'emparer d'elle traduit la profonde inquiétude qui la ronge depuis l'accident. Où est sa mère ? Que lui est-il arrivé ? Un avion passe. Les secours sont toujours à pied d'œuvre. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut avancer. Au fil des jours, le ruisseau que suit Juliane s'élargit. La jeune fille a fini son paquet de bonbons, mais elle n'ose rien manger autour d'elle.
Comme c'est la saison des pluies, je n'ai pour ainsi dire aucune chance de trouver des fruits. Je n'ai pas de couteau et ne peux tailler dans les troncs des palmiers pour en manger le cœur. Je ne peux ni attraper des poissons, ni faire cuire des racines. Je sais que beaucoup des plantes de la forêt sont toxiques. Je m'abstiens donc de toucher à ce que je ne connais pas.
En revanche, Juliane boit sans se restreindre l'eau brunâtre du ruisseau chargé de terre.
Peut-être est-ce pour cela que je ne ressens pas la faim.
Cela fait 5 ou peut-être 6 jours que Juliane marche, quand soudain, un cri retentit au loin. Elle le reconnaît immédiatement. Elle l'entendait souvent quand elle habitait dans la station de recherche de Panguana, au cœur de la forêt, avec ses parents.
C'est un oasim huppé, Sigania.
Et sa présence dans les parages est une excellente nouvelle.
Ces oiseaux ne nichent que sur les eaux ouvertes, au bord des rivières et des grands fleuves. Et c'est exactement ce que j'espérais. Car c'est là aussi qu'habitent les humains.
Galvanisée par cet heureux présage, Juliane accélère le pas. Et comme elle l'imaginait, elle ne tarde pas à apercevoir l'endroit où le ruisseau débouche dans une rivière. Mais un imposant barrage fait de troncs et de broussailles l'empêche d'accéder à cette embouchure. La jeune fille n'a pas d'autre solution que de contourner l'obstacle en quittant le lit de son ruisseau pour s'enfoncer dans la forêt.
Je me débats pendant des heures à travers la forêt. Un roseau haut de plus de 4 mètres, la Canna brava, me blesse aux bras et aux jambes. Mais à chaque fois, les cris des oasis et le vrombissement des avions de recherche me rendent courage.
Ce que sa mère lui a raconté au sujet de ces oiseaux lui revient en mémoire.
Ces oiseaux magnifiques appartiennent à un genre qui n'existe qu'en Amérique du Sud et qui rappelle de loin l'archéotérix primitif. Les jeunes possèdent des griffes alaires qui leur sont bien utiles. Il n'est pas rare que les petits oisimes tombent du nid et y remontent en s'accrochant aux branches grâce à leurs griffes.
Tel un oisime tombé du nid, Yuliane s'accroche aux branches pour avancer dans les broussailles. Après plusieurs heures d'efforts, elle parvient enfin à atteindre les berges de la rivière. Celle-ci fait une dizaine de mètres de large. C'est suffisant. Yuliane lève les yeux. C'est la première fois qu'elle voit le ciel depuis son accident. Mais il est vide. Plus aucun avion.
Le bruit de moteur que j'entendais presque continuellement tous ces jours passés ne revient pas. Je comprends enfin. Ils ont abandonné les recherches. Tous les autres ont dû être sauvés. Mais pas moi. Pas moi. Pas moi.
Yuliane sent une immense colère l'envahir.
Comment peuvent-ils renoncer juste au moment où, après tant de jours, j'atteins enfin des eaux libres? Juste au moment où je peux enfin me faire voir?
Rapidement, la colère laisse place à l'abattement. L'adolescente est d'autant plus désemparée qu'elle comprend, en voyant les nombreux troncs d'arbres et morceaux de bois sur la rivière, que celle-ci n'est pas navigable. Autrement dit, pas une âme ne vit sur les rives de ce cours d'eau.
Je prends pleinement conscience de l'immensité de la forêt qui m'entoure. Elle peut être inhabitée sur des milliers de kilomètres carrés. Et je sais qu'il faut un hasard extraordinaire pour y rencontrer un être humain. Je sens bien que mes chances sont proches de zéro. Mais je ne peux pas renoncer.
Là où il y a un fleuve, les hommes ne sont pas loin. Tôt ou tard, tu les rencontreras.
Yuliane se répète les mots de son père pour se donner du courage. Les berges étant encombrées par une végétation très dense, la jeune fille marche dans l'eau peu profonde sur le bord de la rivière. Cela lui évite de poser malencontreusement le pied sur une araignée ou un serpent venimeux. Elle se souvient des mises en garde de sa mère.
Regarde, Yuliane, c'est un maître de la brousse, l'un des serpents les plus venimeux au monde. Surtout, fais bien attention à eux.
Mais la rivière n'est pas exempte de danger. Yuliane avance munie d'un bâton pour tâter le fond devant elle.
Je sais que des raies redoutables se reposent dans la vase du bord. Si on a le malheur de marcher dessus, elles vous enfoncent leur aiguillon dans le pied. La jambe enfle beaucoup et on a une forte fièvre. Le venin lui-même n'est pas mortel, mais des saletés entrent souvent dans la blessure avec l'aiguillon et cela peut entraîner une septicémie. Dans ma situation, une telle blessure pourrait être fatale.
Yuliane avance péniblement. Tantôt ses pieds glissent sur les pierres, tantôt ils s'enfoncent dans la vase. Elle décide de changer de tactique. Elle avancera plus vite en nageant au milieu du fleuve.
En eau profonde, au moins, je ne risque pas de marcher sur une raie. Il y a bien les piranhas, mais j'ai appris qu'ils ne deviennent dangereux que dans les eaux croupissantes. Il faut certes compter aussi avec les caïmans. Mais habituellement, ils ne s'en prennent pas aux humains.
Yuliane et son insubmersible ténacité se laissent emporter par le courant.
Je réussirai, d'une façon ou d'une autre.
Où cette rivière l'amènera-t-elle? Combien de temps peut-elle encore espérer tenir sans manger? Cela fait maintenant une semaine que l'avion de Yuliane Köpke s'est écrasé en pleine forêt amazonienne. D'après la position du soleil, l'adolescente estime qu'il doit être 5 heures de l'après-midi. Dans une heure, il fera nuit. Il est temps d'arrêter de nager et de chercher un endroit sur la berge pour passer la nuit. Yuliane a plus de mal à trouver le sommeil que les premiers soirs.
Depuis que les effets de la commotion cérébrale se sont estompés, je ne tombe plus dans cet état de somnolence qui ressemblait plutôt à une léthargie. Les nuits sont longues, d'une obscurité totale. Je n'y trouve pas le repos.
Chaque nuit, l'adolescente est harcelée par une nuée de moustiques et de mouches qui la piquent sans relâche. Quand il se met à pleuvoir, les insectes disparaissent et le supplice change de nature.
Dans ma petite robe d'été, je suis frigorifiée et totalement trempée. Il a beau faire très chaud dans la journée, pendant la saison des pluies, les nuits sont terriblement froides. Et chaque goutte me tourmente comme une piqûre glacée. Ensuite, le vent se lève et me fait frissonner jusqu'à la moelle.
Durant ces nuits noires et glacées, Juliane sombre dans le désespoir. Penser à sa mère l'aide à tenir.
Se peut-il qu'elle soit saine et sauve? Qu'elle ait déjà été secourue? J'ai toujours eu une relation très forte avec elle. Elle est à la fois ma mère et une sorte d'amie. Mon lien avec elle est beaucoup plus intime qu'avec mon père, qui, en dehors de ma mère, n'a de relation vraiment proche avec personne.
Le père de Juliane occupe aussi les pensées de l'adolescente.
Comment va-t-il? Où est-il? A-t-il déjà appris la nouvelle de la catastrophe?
Au cours de ces interminables nuits, la jeune fille de 17 ans s'interroge également sur elle-même, sur le sens de sa vie.
Je veux vivre de toutes les fibres de mon corps qui s'affaiblit peu à peu. Alors, je réfléchis à ce que je ferai de cette vie quand tout cela sera passé. Je songe qu'il serait beau de consacrer ma vie à quelque chose de vraiment grand et important. Quelque chose qui bénéficierait à l'humanité et à la nature. Ce que cela pourrait être, je n'en ai aucune idée. Je sens seulement qu'à l'avenir, ma vie devra avoir un sens dans la marche du monde. Car il faut bien que cela ait un sens si je me suis retrouvée hors de l'avion pendant ma chute, si je m'en suis tirée avec seulement quelques égratignures.
Des égratignures qui commencent à mal tourner. Juliane s'aperçoit avec horreur que des asticots blancs ont colonisé la blessure en haut de son bras droit. Des mouches y ont pondu leurs œufs et à présent, leurs larves s'y développent. La jeune fille se souvient que son chien, Lobo, avait été victime des mêmes parasites. Sa patte s'était mise à enfler et à sentir mauvais. Quand ses parents avaient fini par comprendre la cause du problème, ils avaient su réagir.
Normalement, on fait sortir les vers du corps avec de l'alcool. Mais ce n'est plus possible. Le chien deviendrait fou de douleur.
Nous avons donc versé dans la blessure du pétrole, qui ne cause pas de sensation de brûlure. Jusqu'à ce que les asticots sortent un par un et que nous puissions enfin soigner le pauvre Lobo.
Juliane ne dispose ni d'alcool ni de pétrole. Alors avec une petite bague en argent en forme de spirale, elle confectionne une pincette pour tenter d'extirper les asticots de sa plaie. Impossible. Dès qu'elle approche son instrument chirurgical de fortune, les vers s'enfouissent dans sa chair.
L'idée d'être mangée vivante de l'intérieur n'est guère agréable. Je sais bien qu'en eux-mêmes, les asticots ne sont pas spécialement dangereux. En bons parasites, ils n'ont pas intérêt à tuer leur hôte tout de suite. Mais je nage toute la journée dans une eau brune chargée d'alluvions, et la blessure peut s'infecter. Dans ce cas, il ne serait pas exclu qu'on doive me couper le bras? J'ai déjà entendu parler de ce genre de choses.
Bien que consciente des risques, Juliane va devoir continuer à nager avec ses vers voraces logés dans le bras. En avançant, elle constate que les animaux sauvages qu'elle aperçoit sur la berge, comme des martres ou des cerfs des marais, ne semblent pas effrayés par sa présence. Elle entend des singes hurleurs tout proches. Aucun de ces animaux ne fuit sur son passage.
Je sais ce que cela signifie. Et j'essaie de chasser cette pensée. Le fleuve où je me trouve et la forêt qui l'entoure n'ont jamais été au contact des humains. Et il faudra encore des kilomètres pour qu'il en soit autrement.
Yulian ne ressent toujours pas la faim. L'eau de la rivière lui remplit l'estomac. Mais la moindre de ses actions lui demande un peu plus d'effort chaque jour.
Depuis combien de temps suis-je partie? 7 jours? 8 jours? Je compte sur mes doigts et je m'aperçois que l'année 1972 a dû commencer.
Un matin au réveil, l'adolescente découvre que son dos saigne. Il a été gravement brûlé par le soleil lorsqu'elle nageait. Sa peau part en lambeaux. Pour continuer à avancer, elle n'a pas d'autre choix que de plonger son corps meurtri dans la rivière.
Par chance, le courant devient plus fort. Affaiblie comme je le suis, je dois seulement prendre garde à ne pas me blesser en heurtant un tronc d'arbre ou quelque autre obstacle.
La fatigue joue de plus en plus souvent des tours à l'adolescente. Régulièrement, elle croit apercevoir sur la berge le toit d'une cabane ou prend l'appel d'un oiseau sauvage pour le caquettement d'une poule. Ces nuits sont à présent hantées par des rêves de nourriture. Les plats les plus élaborés ou plus simples défilent dans sa tête. Un jour, alors qu'elle s'est assoupie sur un banc de sable au bord de la rivière le temps d'une halte, elle entend un couinement qu'elle reconnaît. Ce sont des bébés caïmans. Yulian ouvre les yeux. Ils sont tout près d'elle.
Ils ne font que 20 cm. Mais je saute en l'air, car je sais que je suis en danger. Si la mère de ces petits s'aperçoit de ma présence, elle va m'attaquer.
Yulian a vu juste. La mère n'était pas loin. Et elle se dirige déjà vers elle d'un air menaçant. Sans attendre, l'adolescente se met à l'eau et se laisse emporter par le courant.
Si cette forêt ne m'était pas si familière, j'aurais certainement été prise de panique et serais sortie de l'eau pour m'enfuir en courant dans la forêt, où, à coup sûr, je n'aurais pas survécu longtemps. Mais je me fie à ce que j'ai appris à Panguana. D'où que vienne le danger supposé, les caïmans fuient toujours vers l'eau. Et même s'ils passent à côté de moi ou en dessous, ils ne m'attaqueront pas.
Le soir du 10e jour, alors que la naufragée de la forêt s'est installée sur une plage de galets pour passer la nuit, son regard se fige.
Je crois rêver. Je me frotte les yeux, mais c'est bien cela. Sur l'autre rive, il y a une barque. Et même une assez grande barque, du genre de celle dont se servent les indigènes. Je me dis que c'est impossible, que j'ai des hallucinations.
Yulian traverse la rivière à la nage. Ce n'était pas une hallucination. Il y a bien une barque et elle est en bon état. La jeune fille découvre un sentier qui la conduit quelques mètres plus haut à une cabane faite d'un toit de palme supporté par des poteaux. Le moteur du bateau y est entreposé avec à côté un bidon d'essence. Mais il n'y a personne. Elle aperçoit un sentier qui part vers le cœur de la forêt.
Je suis convaincue que les propriétaires du bateau vont en émerger d'un moment à l'autre.
Yulian entreprend de verser un peu d'essence sur sa plaie au bras pour en faire sortir les asticots, comme elle avait vu son père le faire avec son chien. L'adolescente grimace de douleur.
Au début, cela fait un mal de chien, parce que les vers essaient de fuir vers l'intérieur de mon bras en s'enfonçant davantage dans la chair. Mais ils finissent par revenir à la surface.
Munie de sa bague transformée en pince, la jeune fille parvient à extraire une trentaine d'asticots. La nuit commence à tomber, et toujours personne en vue. Yulian se couche, enveloppée dans une bâche trouvée dans la hutte.
Ainsi protégée des moustiques, je dors divinement bien. Mieux que dans un hôtel 5 étoiles.
Au petit matin, quand l'adolescente ouvre les yeux, elle est toujours seule. Quelle conduite adopter?
Si personne ne venait pendant des semaines. Je sais qu'il existe dans la forêt vierge des abris où les braconniers ou les bûcherons ne viennent que de manière sporadique. Peut-être devrais-je poursuivre ma route. Je pourrais prendre le bateau pour descendre la rivière. Non, ce ne serait pas juste. Et si le propriétaire était dans les parages, quelque part dans la forêt? À son retour, il aura besoin du bateau. Je ne peux pas sauver ma vie en mettant en danger celle d'un autre.
Alors que Julian tergiverse, une pluie diluvienne s'abat sur elle. Elle se réfugie dans la cabane. C'est décidé. Aujourd'hui, elle se repose et demain, elle repartira. De sombres pensées l'envahissent.
Je vais peut-être mourir ici, maintenant. Et personne ne saura jamais ce que je suis devenue. C'est une impression bizarre qui me contracte la poitrine et me serre le ventre.
La nuit est en train de tomber quand soudain... Un son que Julian n'avait plus entendu depuis son accident la sort de sa torpeur.
Je ne peux pas le croire. Pourtant, ce sont vraiment des voix humaines. Et elles se rapprochent.
Julian voit trois hommes sortir de la forêt. Quand ils l'aperçoivent, ils s'arrêtent, visiblement effrayés.
Je m'appelle Julian. Je suis tombée. Tombée avec l'avion de la Lanza.
Les trois hommes s'approchent, stupéfaits. Ce sont des gardes forestiers. Il lui donne à manger, mais Julian ne peut quasiment rien avaler. L'un d'eux retire un à un la centaine d'asticots qui se trouvent encore dans son bras. Il lui explique qu'en l'apercevant, ils l'ont d'abord prise pour Yakumama, une déesse de la forêt.
Parce que tu es blonde, et à cause de tes yeux. Parce que personne ne vit par ici, encore moins des blancs. Heureusement que tu nous as parlé.
Julian ne pouvait pas le savoir, mais ses yeux sont rouge sang. Leurs petits vaisseaux ont éclaté lors de l'accident. Ceci lui confère un regard un peu effrayant qui a renforcé le côté surnaturel de son apparition au milieu de cette forêt.
Et les autres passagers? Ont-ils été sauvés?
Non, ma fille. On n'a même pas encore retrouvé l'avion. Il a tout simplement disparu dans la forêt, comme si elle avait refermé sa main sur lui. Pour autant que je sache, tu es la seule survivante.
Après l'accident, les recherches avaient été officiellement abandonnées. La nouvelle du retour de Julian à la civilisation ne tarde pas à se répandre. L'histoire de cette miraculée sidère la presse du monde entier. L'espoir de trouver des survivants renaît, les recherches sont relancées. Quand Julian retrouve son père, il s'étreigne longuement, sans davantage d'effusion. Ni pleurs, ni grandes déclarations.
Je suis vraiment heureuse de le revoir, mais je le sais plus que je ne le sens. Il n'y a pas place en moi pour de grandes émotions. Je suis seulement soulagée. Pour le moment, je suis comme coupée de mes propres sentiments.
Julian est encore en état de choc et son père ne peut se réjouir pleinement. Il reste terriblement inquiet pour son épouse qui demeure introuvable. Dans les jours qui suivent, les corps de plusieurs passagers sont retrouvés, dont celui de Maria Köpke, la mère de Julian. Il est dans un état de conservation qui laisse supposer qu'elle a survécu plusieurs jours après l'accident et qu'elle est morte peu de temps avant qu'on ne la trouve. Mais elle n'a, semble-t-il, pas pu se déplacer. Julian est la seule survivante de cette catastrophe qui a fait 91 victimes. Après son sauvetage, les médecins découvrent que ses blessures sont plus importantes qu'elle ne le croyait. Sa chute a provoqué un tassement de vertèbres et une déchirure des ligaments croisés. Avec cette blessure au genou, il est incroyable qu'elle ait pu se livrer à une telle course d'obstacles à travers la forêt pendant 11 jours. Elle affirme n'avoir ressenti ni douleur, ni inflammation durant toute son errance. Ce n'est qu'après avoir été sauvée que son genou s'est mis à enfler. Julian Köpke a attendu 2011 pour raconter son histoire dans un livre intitulé « Tombé du ciel, l'histoire vraie d'une survie miraculeuse ». Au fil des pages, on comprend que cette femme n'a rien perdu de son amour pour la forêt tropicale et qu'elle lui est même à jamais reconnaissante.
C'est cette forêt qui m'a sauvé la vie. Sans le feuillage des arbres et des arbustes qui l'ont amorti, je n'aurais jamais survécu à ma chute et je me serais écrasée au sol. C'est la forêt qui m'a protégée des rayons du soleil tropical tandis que j'étais inconsciente. Plus tard, c'est elle qui m'a aidée à sortir de cette nature intacte et sauvage pour retrouver le chemin de la civilisation.
Après son accident, Julian Köpke est devenue biologiste. Elle a créé une fondation pour la protection de la forêt tropicale péruvienne. Grâce à son action, la forêt primaire autour de Panguana, la station de recherche créée par ses parents, est devenue en 2011 une réserve naturelle. Extremis, histoire de survie, est un podcast original de France Inter.